écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Représenter les forces de l'ordre, c'est être un modèle. C'est garder son sang-froid, même face à la haine, même face au coup.
Face aux nouvelles accusations de violences policières, le ministre de l'Intérieur infléchit son discours. Rappel à l'ordre cinglant de Christophe Castaner aujourd'hui. Les profs seront augmentés, promesse ce soir du ministre de l'Éducation au syndicat d'enseignants. 500 millions d'euros débloqués, mais des intéressés sceptiques.
On ne ressort pas de cette réunion plus inquiet qu'on y était rentré, mais enfin les doutes ne sont pas levés, y compris sur la question des contreparties.
Emmanuel Macron envoie 220 militaires supplémentaires pour renforcer l'opération Barkhane et il dénonce les puissances étrangères qui alimentent le discours anti-français au Sahel. Tempête royale, la grande explication. La reine Elisabeth II, finalement compréhensive avec la décision d'Harry et de Meghan de prendre du recul. Et puis le film Choc sur la banlieue qui avait bluffé la croisette, en route pour les Oscars.
Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Ceux qui le respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
Les Misérables qui représenteront donc la France aux prochains Oscars dans la catégorie film étranger. Météo France met en place une vigilance orange pour les littoraux du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique pour risque de vagues submersion. La tempête Brendan devrait frapper les côtes à partir de la nuit prochaine. Ne manquez pas surtout les prévisions complètes de Marlène Duré à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le cofondateur d'Assureland.com, Olivier Moustakakis. Il s'agit de l'un des grands noms des comparateurs d'assurance. Assurance en ligne. Europe 1. Et c'est donc un rappel à l'ordre inédit auquel s'est livré le ministre de l'Intérieur aujourd'hui à l'occasion de ses vœux aux policiers. Guillaume Bié, c'est simple, on n'avait jamais entendu ces mots-là dans la bouche de Christophe Castaner.
Non, c'est la première fois que le ministre de l'Intérieur s'exprime aussi fermement sur l'exemplarité qu'il attend des forces de l'ordre, qui plus est dans un lieu symbolique, l'École nationale supérieure des officiers, celle qui forme les cadres de la police. Christophe Castaner s'est voulu très clair sur l'usage de la force.
S'il y a un soupçon, il y aura une enquête. S'il y a une faute, il y aura une sanction. Représenter les forces de l'ordre, c'est être un modèle. C'est assumer qui l'on est et porter son rio. C'est être respectueux, même face à ceux qui ne le sont pas. C'est garder son sang-froid, même face à la provocation, même face à la haine, même face au coup. C'est l'honneur de la police qui est en jeu. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser et à abaisser la police.
Pas de croche-pied à l'éthique, c'est une allusion directe à cela. Cette vidéo filmée jeudi dernier à Toulouse où l'on voit un policier faire un croche-pied à une femme qui pourtant s'éloigne de la manifestation. Rappel à l'ordre par Christophe Castaner qui intervient aussi après la mort à Paris de Cédric Chouvia, ce livreur décédé lors de son interpellation, fracture du larynx. Sa famille sera d'ailleurs reçue demain par le ministre de l'Intérieur. Et puis il y a ces nombreuses actions de police violentes lors des manifestations depuis plus d'un an. Des tirs de LBD, de grenades occasionnant des blessures graves, des actions souvent filmées et qui interrogent parfois sur leur légitimité. Au total, depuis l'acte 1 des Gilets jaunes, il y a eu au moins 313 enquêtes judiciaires confiées à l'IGPN, la police des polices, dont au moins 212 rien qu'à Paris. La plupart de ces enquêtes est toujours en cours. Seuls deux policiers ont été jugés jusqu'à présent.
Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. On a par ailleurs appris aujourd'hui la mort du policier qui avait été percuté volontairement par un fourgon dans la nuit de vendredi à samedi près de Lyon. Il a succombé à ses blessures. Il avait 45 ans. Le ministre de l'Intérieur lui a rendu hommage. Des nouvelles de la mobilisation contre la réforme des retraites, elles sont plutôt bonnes, en tout cas pour les usagers des transports en commun. Il y aura des trains et des métros demain, pas encore à 100%, mais on s'en rapproche. L'amélioration se confirme en particulier à la SNCF, avec 8 TGV sur 10 en circulation, 3 TER sur 4, 7 Transiliens sur 10, un train sur deux pour les RER A et B toute la journée. 4,3% de grévistes ce lundi à la SNCF, c'est le taux le plus bas depuis le début du mouvement. Et puis du mieux aussi pour demain à la RATP, toutes les lignes de métro seront ouvertes au moins partiellement. Tandis que sur le fond, la colère persiste. La CGT promet de nouvelles actions, notamment demain dans les ports. Elle menace également d'assécher les distributeurs de billets en bloquant plusieurs centres de la Banque de France. Des actions également dans les raffineries comme celle de Donges en Loire-Atlantique, vous vous trouvez, François Coulon, un blocage décidé pour 3 jours complets.
Oui, le mouvement est radical. Top départ dès 6h demain matin avec un blocage de tous les bateaux entrant et sortant des terminaux portuaires de Saint-Nazaire et de Nantes. 3 jours d'action non-stop. On estime ici que l'adoption de la retraite à points entraînerait une perte sèche d'environ 300 euros mensuels pour les travailleurs du port. Pascal Pontac, secrétaire général CGT.
Les navires vont être suspendus pendant 72 heures. Le mouvement se durcit. Vous avez les bateaux de raffinage, les bateaux de gaz, les tronçons d'Airbus qui empruntent la Loire. sur Airbus vont devoir revoir leur logistique. Et ce qu'on vise, c'est les données économiques des ports.
C'est la paralysie du port que vous visez là ?
C'est le blocage de l'économie, le blocage des ports, port mort pendant 72 heures. Il ne peut y avoir comme solution que le retrait de cette loi qui est néfaste pour tous. Quand on engage un tel niveau d'action pas vu dans les ports français depuis au moins 24 ans, on ira jusqu'au bout pour mettre en échec ce gouvernement sur cette réforme des retraites.
Alors, une douzaine de cargos sont bloqués au large de Saint-Nazaire depuis vendredi, parmi eux un pétrolier qui devait livrer sa cargaison de 100 000 tonnes de brut à la raffinerie Total de Donges. Le mouvement de grève a contraint l'établissement à stopper son unité de distillation de pétrole.
François Coulon en ligne de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Toujours sur cette réforme des retraites, les enseignants ont été reçus cet après-midi par Jean-Michel Blanquer. Le ministre leur a promis de consacrer 500 millions d'euros à des hausses de salaire dès l'an prochain, et ce afin de compenser donc les effets de cette future réforme. Écoutez la réaction de Benoît Teste. Il est secrétaire général de la FSU. C'était tout à l'heure à l'issue de cette rencontre.
Il y a un engagement sur les sommes. Il y a également un engagement sur le fait que des sommes supplémentaires seront ajoutées année après année. Maintenant, on est malgré tout déçus de cette réunion parce que nous n'avons pas eu d'éléments tangibles sur à quelles indemnités, à quels éléments de carrière seraient affectés ces 500 millions d'euros. On est même inquiet que ça ne concerne pas tous les enseignants puisqu'il a été rappelé que le ministère souhaitait consacrer davantage de revalorisation aux plus jeunes. Et par ailleurs, on a évidemment rappelé notre position globale à la réforme des retraites. Aujourd'hui, on n'a pas de garantie sur le montant des pensions. Et donc, on ne ressort pas de cette réunion plus inquiet qu'on y était rentré. Mais enfin, les doutes ne sont pas levés, y compris sur la question des contreparties.
Le secrétaire général de la FSU au micro Europe 1 d'Élise Dangean. Les avocats ont eux aussi été reçus aujourd'hui par leur ministre Nicole Belloubet. Eux qui multiplient les actions ces derniers temps. D'ailleurs, la grève des avocats a entraîné aujourd'hui le report d'un jour du procès du père Prénat. Il débutera finalement demain. L'ancien prêtre est jugé pour agression sexuelle sur deux jeunes scouts dans les années 80. 10 d'entre eux sont partis civils et dès ce matin, ils se sont brièvement retrouvés quand même face au père Prénat. 25 ans après les faits, une confrontation douloureuse mais nécessaire pour Vincent Berger.
C'est hard de le regarder à nouveau. Voilà, j'ai versé quelques larmes et puis j'ai pris le dessus et je me dis bah, c'est bien que ça se tienne maintenant. Voilà.
Vous avez envie de croiser son regard ?
Sans problème, je ne suis plus l'enfant, voilà, donc je suis plus massif que lui. Donc j'ai peur de rien maintenant.
Qu'est-ce que vous éprouvez à l'égard du personnage Prena ?
Deux sentiments, c'est quelqu'un qui a fait du mal et je ne voudrais pas qu'il continue à en faire. Donc de la méfiance et en même temps quand je le vois, je me dis c'est quelqu'un qui est travaillé, quoi, donc qui a des problèmes et faut pas le lyncher non plus. Voilà, il faut que ce soit juste, un procès juste.
Il a déjà dit d'emblée qu'il était coupable.
Coupable, oui. Je l'avais vu il y a 25 ans, il avait déjà dit c'est bien, mais c'est intellectuel. La culpabilité, je ne suis pas sûr qu'il la ressente, donc que ce soit dissuasif aussi, si c'est possible.
Vincent Berger, l'une des victimes présumées du père Prénat au micro Europe 1 de Jean-Luc Boujon. Début de ce procès donc demain.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h08, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et Emmanuel Macron a annoncé ce soir l'envoi de 220 soldats supplémentaires pour renforcer la force Barkhane qui compte déjà 4500 hommes. La France et les présidents des 5 pays du Sahel sont réunis actuellement à Pau. Ils s'engagent par ailleurs à renforcer leur coopération militaire anti-djihadiste, mais ils espèrent que les États-Unis vont poursuivre leur appui crucial. Vous savez que les Américains entendent réduire leur présence militaire dans la région. Emmanuel Macron espère bien convaincre Donald Trump. Par ailleurs, le président français dénonce les puissances étrangères qui alimentent, selon lui, le discours anti-français au Sahel.
J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Et je le fais en conscience quand je décide de les envoyer là-bas. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Ils sont indignes parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts. Demandez-vous bien. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin parce qu'ils ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires. Vous n'avez pas cet agenda-là. L'armée française, elle est là pour la sécurité et la stabilité. Je n'ai pas d'autres intérêts.
Emmanuel Macron ce soir à Pau, au sommet des pays du Sahel. Il était au micro européen d'Adrien Beck. Il s'agit sans doute du conseil de famille le plus médiatisé de l'année. La reine Elisabeth II avait convoqué toute la famille aujourd'hui après la décision du couple Harry-Meghan de se mettre en retrait de la royauté. Johanna Chabas, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Johanna, à la surprise générale, un terrain d'entente a été trouvé.
Effectivement, personne ne pensait qu'Elisabeth II allait accepter aussi rapidement la décision d'Harry et Meghan. Toute la presse ici présentait la reine comme extrêmement remontée contre son petit-fils. Et pourtant, dans son communiqué, la monarque dit soutenir le couple. Elle admet qu'elle aurait préféré qu'il reste travailler dans la famille royale. Mais elle déclare comprendre Harry et Meghan et leur propose même une période de transition pour qu'ils s'adaptent à leur nouveau rôle. Ils pourront vivre entre le Royaume-Uni et le Canada et comme ils le souhaitent, ils ne toucheront plus de fonds publics. Alors la reine le dit, il reste encore beaucoup de travail et de questions en suspens. Quels vont être les titres de Harry et Meghan? Qui va financer leur sécurité? Comment vont-ils gagner de l'argent? La famille royale va devoir trouver des solutions et la reine ne veut pas que cela traîne en longueur. Elle espère pouvoir tout régler en quelques jours.
Johanna Chabas, correspondante d'Europe 1 à Londres. Bientôt, la cérémonie des Oscars, ce sera le 9 février. Et un film français est nommé dans la catégorie meilleur film étranger. Il s'agit des Misérables, premier film du réalisateur Ladjli, qui avait déjà ému la croisette au dernier festival de Cannes, Diane Chenouda.
Oui, Les Misérables avaient été primés à Cannes, le film avait reçu le prix du jury et il cartonne en salle. Film choc sur la banlieue, sur une bavure policière qui embrase toute une cité de Seine-Saint-Denis.
Vous n'éviterez pas la colère et les cris.
Putain ! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés.
Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone ? Là, il y a un gamin inconscient, là !
Emmanuel Macron lui-même s'est dit bouleversé par le film. Mais Les Misérables auront sans doute du mal face à Parasite, chef-d'œuvre du sud-coréen Bong Joon-ho, Palme d'or à Cannes et autres grands succès en salle. Parasite qui est aussi nommé dans les catégories meilleur film et meilleur réalisateur. Mais le film le plus cité et qui sera le grand favori, c'est Joker, avec 11 nominations, meilleur film, meilleur réalisateur et bien sûr meilleur acteur, avec Joaquin Phoenix qui livre une performance exceptionnelle en clown psychopathe.
Is this a joke to you?
Joker est au coude à coude avec trois autres favoris, The Irishman de Martin Scorsese, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et 1917 de Sam Mendes, avec 10 nominations chacun. Une course aux Oscars encore une fois très blanche et masculine qui devrait faire polémique puisqu'aucune femme ne figure cette année dans la catégorie réalisateur. Seule l'actrice noire américaine Cynthia Erivo est nommée comme meilleure actrice pour Harriet.
Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. Et puis à noter côté français qu'il n'y aura pas que Les Misérables. J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin est également nommé dans la catégorie du meilleur film d'animation, tout comme Mémorable de Bruno Collet dans la catégorie court-métrage d'animation. Nefta Football Club d'Yves Pia dans la catégorie meilleur court-métrage. Et puis le compositeur Alexandre Desplat a reçu une nouvelle nomination pour la bande originale des Filles du Docteur March. Et puis la ville de Nice va-t-elle entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO? Elle est en tout cas sur les rangs avec le soutien du gouvernement français. Candidature qui devrait être examinée par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2021. En handball, il a finalement survécu à l'élimination des Bleus en championnat d'Europe. Le sélectionneur Didier Dinard est maintenu à son poste. Les Français ont désormais pour objectif leur qualification pour les prochains JO. Et on jette un œil tout de suite sur la météo. C'est avec vous ce soir, Marlène Duré. Marlène, attention, on se prépare à un coup de vent sur le nord-ouest.
La tempête qui sévit du côté des îles britanniques influence le temps sur la France, oui, dès ce soir en Bretagne et dans le Cotentin, avec du vent et des pluies importantes qui abordent déjà la pointe bretonne. Ce mardi, sur un grand quart nord-ouest, c'est-à-dire des Charentes à la Lorraine, eh bien le ciel sera couvert, pluvieux, s'accompagnant de vent dans l'intérieur des terres jusqu'à 70 km à l'heure. Ces pluies deviendront plus éparses l'après-midi, sauf du côté du Cotentin et de la Bretagne, où elles vont rester régulières et parfois soutenues. Attention, les rafales peuvent atteindre les 100 km à l'heure près des côtes bretonnes. Et à cause de ces vents, de très fortes vagues risquent d'engendrer des submersions. Voilà pourquoi le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique ont été placés en alerte orange. Ailleurs, notez simplement des entrées maritimes sur le pourtour méditerranéen avec des pluies localisées mais seulement le matin, du très beau temps dans le sud-ouest et puis en général du soleil plus ou moins voilé. Côté thermomètre, il fera doux pour la saison, peu d'amplitude thermique à prévoir entre le matin et l'après-midi, en tout cas pour les villes qui seront sous les pluies. Il fera 9 degrés à Grenoble, 12 dans la capitale, mais aussi à Lille et Lyon, et jusqu'à 15 près de la Grande Bleue.
La météo signée Marlène Duré.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le cofondateur d'assureland.com. A tout de suite sur Europe 1. Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h16 et comme tous les soirs à cette heure-ci, on s'intéresse maintenant à la bourse avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui débute cette semaine sur de nouveaux records.
Wall Street qui repart à la hausse, qui repart de plus belle. On a oublié très vite les remous internationaux de la semaine dernière puisque le Dow Jones gagne 0,29% ce soir, 28 907 points et surtout le Nasdaq bondit d'1%. L'indice des valeurs de technologie, 9 274 points. Nouveau record historique, alors que la délégation chinoise arrive à Washington en vue de la signature officielle de l'accord commercial, fameux accord commercial avec Donald Trump, ce sera pour mercredi la signature à la Maison Blanche. Et la vedette du jour, c'est Tesla, le fabricant de voitures électriques, qui bondit de près de 10%. 525 dollars et vaut pas loin de 100 milliards de dollars en bourse, alors que Pékin pourrait reconduire ses aides aux achats de voitures électriques. Ça tombe bien pour Tesla, qui bondit donc au plus haut absolu, 525 dollars. Le pétrole, du coup, revient un cran en arrière, encore 64 dollars le baril, moins 1,5%. Aux valeurs de technologie, Apple gagne aussi 2%, 317 dollars. Microsoft, plus 1,2%, Google plus 0,7% et Amazon plus 0,4%. Sur les devises, ça ne bouge pas beaucoup. L'euro est à 1,1135 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, elle, a terminé cette séance pratiquement stable.
Prudemment, oui. On n'a pas vraiment suivi Wall Street. La Bourse de Paris stagne à 6036 points sur le CAC 40. Quelques valeurs oubliées sont quand même remontées, comme Casino, plus 1,6%. Le groupe de distribution pourrait céder rapidement son enseigne Leader Price au groupe allemand Aldi pour 700 millions d'euros, donc 750 millions d'euros exactement. Casino en hausse d'1,6%. Publicis remonte aussi de 2,8%, 43 euros. La Publicis, le groupe publicitaire, est aidé par un avis favorable de Goldman Sachs qui vise un cours de 56 euros sur Publicis.
Et l'exception du jour, Didier, c'est le titre Renault qui a rechuté de près de 3%.
40,66 euros, oui, ça fait des ordres au plus bas depuis 7 ans en Bourse de Paris. Alors que l'on reparle d'un divorce entre Renault et Nissan, certaines sources parlent même désormais d'une scission complète qui laisserait Renault seul au moment où Peugeot se rapproche de Fiat Chrysler. Et ça donne un titre au plus bas depuis 7 ans, depuis 2013, Renault à 40,66 euros ce soir. Sur les autres places financières, ça baisse sur le DAX à Francfort, moins 0,2%. Petite baisse à Madrid, moins 0,3%. À Milan, moins 0,5%. Et donc le CAC 40 stable, 6036 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Didier Hamot de boursier.com que l'on retrouve demain. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité éco. Avec vous, Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le cofondateur d'Assureland.com.
Bonsoir Olivier Moustatakis.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur d'Assureland, un des grands noms des comparateurs d'assurance en ligne. Est-ce qu'on peut dire que 2020, pour nous, assurés, commence pas trop mal parce que nos polices d'assurance, que ce soit pour l'habitation ou pour l'auto, progressent finalement de façon très limitée, 1% maximum ?
Alors, en effet, les hausses vont être assez modérées sur l'habitation et sur l'automobile. Alors, plusieurs raisons à cela. Sur l'automobile, on prévoit une hausse d'environ 0,5% parce que la sinistralité routière a été à peu près étale, donc il n'y a pas eu de gros sinistres et de gros dommages en sinistralité auto sur 2019. Et vous avez aussi un effet bénéfique de la loi Hamon où les assureurs, même s'ils ont des velléités à vouloir augmenter un peu leurs tarifs, modulent un peu leur variation tarifaire au risque de perdre des clients, puisque maintenant on peut résilier à tout moment son assurance auto. En ce qui concerne l'habitation, on prévoit une hausse de 1%, donc on va être assez flat sur la partie habitation. Or, en dépit des quelques sinistres de fin d'année, globalement sur les catastrophes naturelles, il n'y a pas eu énormément de choses en 2019, paradoxalement. Et il ne faut surtout pas oublier que depuis 10 ans, l'assurance habitation a augmenté quand même de 35%.
Oui, donc il y a eu de très très fortes hausses. Vous citiez la loi Hamon, hein, pour nos auditeurs qui auraient oublié maintenant, plus besoin d'attendre cette fameuse date d'anniversaire. Au bout d'un an de contrat, on peut changer quand on veut son contrat d'assurance. C'est vrai pour l'auto, c'est vrai pour l'habitation. C'est vraiment ça? C'est parce qu'aujourd'hui, les assureurs ont peur qu'on parte, donc ils n'augmentent pas trop les prix?
Aujourd'hui, il y a une volatilité plus forte, parce qu'à partir du moment où il y a une augmentation significative, l'assuré à tout moment peut résilier son contrat et aller voir la concurrence.
Et ça commence vraiment à fonctionner. Vous qui êtes un comparateur de prix d'assurance, vous êtes en première ligne. Vous voyez une hausse d'intérêt pour vérifier si peut-être l'assureur d'à côté ne serait pas un peu moins cher?
Alors, tout à fait. Il y a un volume de comparaison qui augmente clairement. Et on sait que quand il y a des augmentations tarifaires de certains assureurs, il y a immédiatement des velléités pour l'assuré d'aller voir ailleurs.
Quand on est depuis longtemps chez son assureur, on a de quoi aujourd'hui faire une belle économie quand on fait un comparatif, par exemple, chez vous, chez Assureland ?
En moyenne, ce qu'on a mesuré, c'est que vous pouvez économiser jusqu'à 40% à peu près en cherchant le bon assureur, c'est-à-dire l'assureur, parce qu'il n'y a pas ni bon ni mauvais assureur, mais l'assureur qui considère que votre profil est un bon profil pour lui. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des économies substantielles.
40%, c'est énorme, mais on est garanti de la même façon ?
Tout à fait, à niveau de garantie égal.
On parlait des catastrophes naturelles, vous disiez 2019 a été plutôt calme, alors malheureusement il y a eu quand même d'énormes problèmes, notamment dans le sud-est. On sait qu'à cause du réchauffement climatique, il va y avoir de plus en plus de risques, des maisons qui vont s'affaisser parce que les sols vont être trop secs, des pluies diluviennes à certaines périodes de l'année. Est-ce que malgré tout, sur le long terme, ça ne va pas faire augmenter les prix ?
Alors par le passé, la taxe pour les catastrophes naturelles sur les contrats d'assurance dommages a augmenté puisqu'elle est fixée aujourd'hui à 12%. Sans être grand clair, il y a fort à parier que ce pourcentage risque d'être augmenté dans les années à venir. Et aujourd'hui, c'est un sujet un peu qui est d'actualité puisqu'il y a une réforme en cours du régime catastrophe naturelle qui va être débattue en fin d'année avec certains aménagements, dont prise en charge des frais de relogement des sinistrés et d'autres mesures en cours de discussion au Sénat.
Et ça, d'après vous, sur un moyen court terme, ça devrait faire évoluer à la hausse les tarifs ?
Il devrait y avoir une évolution des taxes qui sont prélevées sur les contrats d'assurance dommage, tout à fait.
Un des points aussi qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'assurance emprunteur. Quand on achète un bien, on est obligé de s'assurer en plus de son prêt. Là aussi, la loi a évolué. Là aussi, on peut quitter maintenant sa banque ou son assureur de façon plus facile. J'ai l'impression que ça ne prend pas énormément, alors que pour autant, on peut faire une économie extraordinaire.
Alors tout à fait, en assurance emprunteur, il ne faut pas hésiter à mettre en concurrence son banquier au niveau de la partie assurantielle, donc pour la couverture assurance du prêt, parce qu'en effet, les économies sont énormes, sont vraiment énormes sur la durée. On parle parfois de dizaines, voire 20 000, 30 000 euros, suivant le montant du prêt qui est couvert. Donc il ne faut surtout pas hésiter à demander une délégation d'assurance auprès de son banquier et ne pas avoir peur de le faire surtout.
Je crois qu'on peut le dire, les banquiers se montrent un petit peu réticents. Ils essayent d'influencer les clients en disant que ça va être compliqué. Non, c'est très simple. On prend une garantie identique et c'est très facile de comparer.
Ah, complètement, c'est tout à fait simple. Mais c'est vrai que les banquiers là-dessus rechignent à en effet rendre le process, on va dire, transparent et simplifié.
Au début de cette interview, on parlait de l'assurance auto où les tarifs ont peu augmenté cette année. Vous citiez la loi Hamon, mais il y a peut-être aussi une autre raison, c'est que là, depuis quelques semaines, il n'y a plus de monopole des concessionnaires automobiles sur les pièces automobiles, alors même si les voitures ont de plus en plus d'électronique, ça faisait partie des raisons pour lesquelles les prix bougeaient peu sur l'assurance, en tout cas bougeaient peu à la baisse. Est-ce qu'on peut imaginer des baisses d'assurance grâce à cette réforme ?
Alors clairement, il y a la libéralisation des pièces détachées, donc du monopole des constructeurs, qui va s'effectuer en deux phases. Alors sur cette année, sur 2020, ça constitue uniquement les vitrages, rétroviseurs et optiques. Et pour 2021, c'est l'ensemble des pièces détachées. Pour 2020, il y a eu un chiffrage qui a été fait par un organisme qui évalue à peu près une économie de 400 à 500 millions d'euros. Donc il y a fort à parier que cela bénéficie clairement aux consommateurs, puisqu'il y a fort à parier qu'on peut voir arriver des baisses potentielles d'assurance automobile.
Alors peut-être une bonne nouvelle sur l'automobile, en revanche sur la santé, il va peut-être falloir regarder un petit peu nos contrats d'assurance, puisque là on a tous entendu parler qu'on va avoir maintenant le zéro reste à charge, c'est vrai sur l'optique, c'est vrai sur les dents, c'est vrai également pour ceux qui ont besoin de s'appareiller au niveau des oreilles. À un moment, il va bien falloir que quelqu'un paye, et donc nos mutuelles vont peut-être augmenter les tarifs.
Alors clairement, on va suivre ça de très près. On prévoit déjà une hausse de l'assurance santé sur 2020 d'environ 2,5%. Et il y a fort à parier que le reste à charge zéro va faire augmenter les primes, contrairement aux vœux pieux du gouvernement et qui implore les assureurs de ne pas augmenter leurs primes. Après, on est dans un régime économique. Donc d'un côté, il y a des dépenses et de l'autre, il y a des coûts. Donc à un moment donné, forcément, il y a une équation qui ne marche pas. Donc il va falloir que les primes augmentent.
L'augmentation déjà de cette année, vous pensez que les assureurs essayent d'y aller doucement pour pas trop se faire taper sur les doigts, mais commencent à anticiper ce rattrapage ?
Alors je pense que c'est progressif, donc c'est quelque chose que l'on surveille au moins le mois et on fera des communiqués là-dessus.
Eh bien, un grand merci Olivier Moustatakis, le cofondateur d'Assureland.com, qui était notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
À demain, merci à vous Emmanuel Dutheil. Et dans un instant, jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Une rouge sang, celle de Libération. Avec ce titre, nous, chefs de services hospitaliers, nous avons pris la décision inédite de démissionner collectivement. Si des négociations ne sont pas engagées, il faut réformer l'hôpital. Il y a urgence. Libération publie en exclusivité demain la lettre de plus de 1200 praticiens à la ministre de la Santé. C'est un acte fort et inédit pour dénoncer les conditions de travail au sein des établissements publics. Violence policière, Castaner au pied du mur, titre pour sa part le journal L'Opinion. Mort du livreur Cédric Chouvia, tir de LBD à bout portant, grenade lacrymogène lancée vers la fenêtre d'une étudiante. Ces événements filmés obligent le gouvernement à réagir. On l'évoquait d'ailleurs tout à l'heure dans le journal. Un croche-pied et le gouvernement risque le faux pas, écrit Ivan Trippenbach, évoquant cette scène virale d'un policier CRS qui fait tomber une jeune femme à Toulouse jeudi dernier lors d'une manifestation. Dans le journal La Montagne, Florence Chédotal revient sur la promesse faite ce soir aux enseignants. Ces 500 millions d'euros débloqués pour des augmentations. Le cas des enseignants, écrit la journaliste, montre à quel point l'exécutif a mis le doigt dans un engrenage financier dont il va avoir grand-peine à sortir. Quelle sera la facture de cette réforme entre concessions et rattrapages qui manquent cruellement jusqu'ici de cadrage financier. Retraite, le casse-tête des nouvelles recettes, titre justement Ouest France. En finir avec l'hypocrisie, c'est ce qu'écrit pour sa part Laurent Baudin dans le journal L'Alsace, le journaliste qui évoque un sujet sensible, la fin de vie, dénonçant l'hypocrisie en matière législative qui a poussé depuis des décennies des médecins très convenables à agir en leur âme et conscience et à aider les mourants à passer de vie à trépas. La question est aujourd'hui relancée avec la mise en cause du docteur Méheux Ferron, soutenu par plus d'un millier de confrères qui reconnaissent pour beaucoup avoir fait comme lui et administré des sédatifs dont il connaissait les conséquences. Il est temps, écrit le journaliste, que la société française affronte la réalité en face et débatte ouvertement de la question de l'euthanasie ou du suicide assisté, voire qu'elle décide par référendum. Ce dossier est affaire de conscience individuelle. Automobile, coup de froid sur l'Eldorado chinois, titre Les Échos. Ça fait 2 ans que le premier marché automobile mondial recule et la nouvelle année devrait suivre cette tendance. Même les véhicules électriques sont à la peine. Et puis le retour du nationalisme irakien, titre le journal La Croix. La hiérarchie religieuse et les fidèles chiites s'en prennent désormais ouvertement aux ingérences du voisin iranien. Voici donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix, bien sûr, pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Très bon début de semaine à vous. Belle émission.
Et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.